France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-10.
Et avec Yaël Gauz, nous recevons ce matin dans le grand entretien le commissaire européen au marché intérieur. Question réaction 01 45 24 7000 et application France Inter. Thierry Breton, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans ce studio. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin. La régulation du numérique, les élections européennes, l'état de l'économie dans l'Union européenne par rapport aux États-Unis. Mais commençons, si vous le voulez bien, par le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, un Sorbonne 2 après le discours de 2017, discours marqué par l'alarmisme, je cite le chef de l'État, « À l'horizon de la prochaine décennie, le risque est immense pour l'Europe d'être fragilisée, voire reléguée. Notre Europe aujourd'hui est mortelle, elle peut mourir et cela dépend uniquement de nos choix », a affirmé le président de la République. Partagez-vous cette inquiétude existentielle du chef de l'État sur l'avenir du continent européen? Fragilisation, relégation, mort, reprendriez-vous ces mots ce matin?
Nicolas Demorand, je les partage d'autant plus que j'allais presque vous dire qu'ils fondent mon quotidien depuis que je suis maintenant 5 ans que je suis commissaire européen. Ces termes, les termes tels qu'il les a exprimés, fondent mon quotidien. Bien sûr que le projet européen est un projet qui ne fonctionne qu'en dynamique. Bien sûr que le projet européen est un projet qui, non seulement, j'allais dire, fait des jaloux, mais aussi contre lequel s'opposent la plupart des grands acteurs mondiaux, à commencer évidemment par la Russie. Enfin, je l'ai vécu de moi-même, lorsque je me suis occupé des vaccins, où Poutine voulait en permanence nous empêcher de vacciner nos concitoyens européens et nous imposer son fameux vaccin, on l'appelait Spoutnik, qui ne fonctionnait pas. Je l'ai vécu et je le vis tous les jours, avec ces velléités de déstabilisation de nos démocraties, les cyberattaques, l'utilisation de migrants comme arme, hybride. Donc, bien sûr, je le vis évidemment avec les rapports de force avec les États-Unis.
Il y a un risque de mort. Vous vous projetez, Thierry Breton. Vous dites qu'il y a un risque de mort de l'Europe si elle ne bouge pas.
Le véritable projet européen, c'est d'être ensemble pour lutter contre tous ces risques. Et tant que nous sommes ensemble, on progresse, on avance et on protège. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on écouterait certains qui veulent nous déstabiliser, eh bien, le risque, évidemment, c'est la fin du projet européen, et donc bien entendu quoi ? Ceux pour lesquels la souveraineté et l'autonomie sont des valeurs cardinales, je parle des États-Unis, America First, mais ça a continué sous Biden, je pense évidemment à la Chine, dont on sait que le seul thème désormais c'est plus l'économie, mais c'est précisément les aspects de sécurité et de défense, mais je le vis tous les jours, si on n'est pas ensemble, on ne peut pas faire les rapports de force, et évidemment on se fait balayer. Donc c'est parce que nous sommes ensemble que nous avons un projet qui fonctionne, et puis qui s'impose.
Alors justement, parlons de défense, puisque la défense fait partie de votre portefeuille de commissaire européen, Thierry Breton. Emmanuel Macron invite les Européens à bâtir, je cite, une initiative européenne de défense qui pourrait inclure un bouclier anti-missile. Qu'est-ce que c'est que ce bouclier ? Est-ce que c'est sur le même modèle que ce qu'on a vu à l'œuvre en Israël quand l'Iran a lancé son attaque de drones et de missiles récemment ?
C'est très important. Et cette partie, d'abord, le discours du président de la République est très important sur les trois volets. Hein, le volet protection et le volet, évidemment, défense.
Le bouclier,
ça concerne la capacité de se protéger dans ce qu'on appelle les espaces contestés. Revenons, si vous voulez, une seconde à la boussole stratégique, c'est-à-dire le livre blanc que les 27 ont écrit ensemble, sous la direction du haut représentant, Josep Borrell, il y a maintenant 2 ans, pour la première fois, nous avons enfin une doctrine ensemble de défense, dans laquelle il est dit très explicitement que les Européens doivent protéger ensemble les 4 espaces contestés. L'espace aérien, il faut un bouclier missile. L'espace tout court, il faut une constellation qui nous protège de l'espace à l'espace, c'est ce qu'on a fait avec la constellation IRIS². L'espace cyber et l'espace maritime. Et donc, pour ces 4 espaces, il n'y a pas d'autre choix que de travailler ensemble.
Le président de la République. Mais avec quelle technologie, Thierry Breton ? Américaine, mais étrangère ?
Mais encore une fois, le sujet, c'est de nous protéger ensemble. Il se trouve que les technologies aujourd'hui, dans les 4 espaces, elles existent parce que vous savez, en Europe, on peut tout faire en matière de défense. On sait faire des boucliers antimissiles. Prenons évidemment des entreprises qui savent le faire et on sait que des entreprises françaises, des entreprises italiennes savent le faire. On sait bâtir des constellations de protection de l'espace tout court. On a tous les éléments pour protéger aussi, pour avoir un bouclier cyber au niveau européen. Et on a commencé à le faire. Donc, il faut bien vous dire que ces quatre espaces, désormais, ils vont être à la main, exclusive des 27 ensemble, et que c'est pour ça qu'il faut un fonds pour les financer, évidemment de la technologie européenne, parce que on la maîtrise.
Thierry Breton, qui dit défense européenne, dit investissement colossaux. Vous défendez un nouvel emprunt commun pour trouver l'argent. Vous parlez de 100 milliards d'euros. Qui, aujourd'hui, dans les 27, soutient cette idée et est prêt à mettre au pot sur une somme pareille?
Alors, c'est évidemment une proposition qui avait été faite, vous vous en souvenez, par la première ministre estonienne Kaja Kallas, et qui rejoint nos propres calculs avec mes équipes, puisque nous sommes en charge des industries de défense au sein de la Commission, avec deux piliers. Un pilier pour protéger les espaces contestés dont nous venons de parler à l'instant. Un autre pilier pour augmenter la capacité industrielle, car c'est de ça dont il s'agit. Il faut impérativement augmenter très vite notre capacité à produire plus et mieux ensemble en européen en termes d'industrie de défense. Alors, on parle évidemment, on a calculé ce montant, on va évidemment l'affiner. Le Conseil européen nous a demandé, la Commission, de revenir au Conseil de juin avec des propositions donc finalisées, y compris en matière de propositions de financement. Moi, ce que je dis, évidemment, et ça vous surprendra pas, parce que je l'avais déjà fait au moment de la crise du Covid, ou précisément pour bâtir notre constellation d'orbite basse par satellite Iris Square, dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut avoir des investissements communs en Europe et en européen lorsque nos intérêts vitaux ou existentiels sont engagés. Et donc oui, je pense que pour ceci, on a plusieurs formules, on va y revenir. L'une d'entre elles, c'est des eurobonds. L'autre, c'est évidemment d'avoir un endettement totalement en commun, comme on l'a fait pour répondre à la crise du Covid. 100 milliards, Nicolas de Morant, c'est beaucoup, mais 100 milliards par rapport auprès de 16 000 milliards d'euros du PIB européen. Si c'est existentiel, bien entendu qu'on saura le faire.
Vous avez beaucoup le mot commun à la bouche, et effectivement, hier, Emmanuel Macron, dans une interview à la presse régionale, a dit qu'il proposerait aussi de partager l'arme nucléaire française. Il dit qu'il veut ouvrir ce débat qui inclut la défense antimissile, les tirs d'armes de longue portée et l'arme nucléaire pour ceux qui l'ont ou qui en disposent sur leur sol en Europe. Le Brexit fait que le Royaume-Uni nous a quittés, eux avaient l'arme nucléaire, il ne reste plus que nous. Est-ce que vous comprenez l'émoi que cela suscite ce matin dans les oppositions, RN, LFI, LR, qui ont l'impression que la doctrine gaulliste est complètement abandonnée et qu'on brade la souveraineté française?
Yael Gauz, on va revenir une seconde à ce que Pierre Aski vient de dire. Il n'a jamais été question, et Pierre Aski vient de nous le rappeler, de dire qu'il s'agit de partager l'arme nucléaire. Il a même dit que c'était l'inverse. Mais il a dit, là vous avez raison, qu'à chaque fois que le président de la République, c'est la troisième fois, puisqu'il avait déjà dit en 2020, il a dit en 2022, il le redit désormais en 2024, et j'allais presque dire rien de nouveau au fond, sous le soleil, si vous permettez cette expression, mais à chaque fois, il y a effectivement ces réactions, qui sont des réactions évidemment politiciennes. Il ne s'agit pas de cela, encore une fois, c'est pas à moi à faire l'exégèse de ce que dit le président de la République sur l'arme nucléaire. Il est le seul habilité à parler de ces questions. Il n'en demeure pas moins que qu'est-ce qu'il dit et qu'il répète depuis maintenant plusieurs fois, c'est qu'évidemment l'engagement de l'arme nucléaire, c'est la doctrine de dissuasion, ça se fait lorsque les intérêts vitaux de la France sont menacés, et il rajoute systématiquement que, en ce qui concerne les intérêts vitaux de la France, il y a évidemment une dimension européenne.
Mais est-ce que les Européens vont choisir le parapluie français ou le parapluie américain?
C'est de cette dimension européenne que le président de la République a dit qu'il était prêt à parler avec ses homologues. Mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre. Encore une fois, ce n'est pas à moi à commenter surtout ce type de propos. Dont je rappelle que je ne fais que dire effectivement ce qu'il dit lui-même. Et ce qui est important, parce que la dimension européenne, elle est inhérente, encore une fois, à ses propos. Et depuis maintenant, un certain nombre de fois, qu'il discute maintenant avec ses homologues, c'est ce qu'il propose de faire. Je pense que ça se fera certainement dans le contexte qu'a rappelé Pierre Aski, l'instant, c'est-à-dire évidemment certainement pas en partageant la décision, en partageant les coûts, en partageant le fait que ça devient désormais européen. C'est absolument pas ce qu'il a dit, mais laissons-le maintenant faire ce qu'il a à faire, et certainement
Thierry Breton,
sous les écrans.
On l'entendait dans le journal de 8h, les forces russes accélèrent leur progression sur le front ukrainien pour tenter de prendre un avantage stratégique avant les prochaines livraisons d'armes américaines. Sur les livraisons européenne. Cette fois, où en sommes-nous ? Sur 100% de nos promesses faites à l'Ukraine, combien ont été tenues et livrées ?
Alors d'abord, sur les chiffres, je rappelle que l'Union européenne a déjà livré pour 28 milliards d'équipements à l'Ukraine. Il y a encore 21 milliards qui sont prévus donc jusqu'à la fin de l'année. On est à peu près à 50 milliards. C'est à peu près l'équivalent de ce qu'on fait jusqu'à présent donc les États-Unis. Donc les livraisons, elles sont là, elles arrivent. Ce qui est très important, c'est qu'effectivement, il faut avoir plus de capacité de protection. On parlait tout à l'heure de dômes de protection aérienne. Donc, et c'est une demande réitérée de la part de Volodymyr Zelensky. La décision du Congrès, évidemment, que nous saluons, va permettre de livrer très rapidement donc ces fameuses batteries de missiles, sans doute Patriot, donc pour protéger les éléments les plus critiques en Ukraine. Et c'est une nécessité de le faire assez vite. J'ai cru comprendre que un certain nombre de ces équipements
sont prépositionnés. Mais nous, Européens, sur 100%. D'armes promises, on a livré combien ?
En ce qui nous concerne, on a livré ce que nous avions dit que nous allions livrer. On est maintenant en phase de livrer maintenant, comme vous savez, des avions. Il faut d'abord entraîner, évidemment, les pilotes. Et peut-être plus précis sur les munitions, car on sait que c'est un sujet absolument majeur sur la ligne de front. Nous nous étions engagés à fournir, entre le mois de mars 2023 et le mois de mars 2024, donc plus d'un million d'obus de gros calibre 155 à l'Ukraine. Ils ont été fournis. On a augmenté notre base industriel. Donc désormais on est à plus d'un million de capacités par an. On va passer à 2 millions de capacités par an en 2025 grâce au financement européen. Donc on est, je dirais, dans la dynamique que nous avions promis. Est-ce que ça suffit ? Non. On sait qu'il faut accélérer. On sait qu'il faut accélérer que l'Europe, donc, comme je le dis, 2025, c'est une capacité de 2 millions un peu plus de production par an. Donc sur ce segment, oui, on est passé en économie de guerre, mais il faut aller encore plus vite. C'est un élément très important et donc je tiens à dire que nous nous réjouissons et je me réjouis du fait que les Américains qui ont mis beaucoup de temps à se décider, on voit que la démocratie américaine est lente, plus lente que la démocratie européenne du reste, vont revenir donc en soutien. Je crois que c'est très nécessaire et je le rappelle, existentiel.
Encore une question, Yael, avant de passer à l'économie.
Voilà, autre sujet de souveraineté française, celui-là. Bruno Le Maire a annoncé hier soir que les actifs stratégiques du géant informatique français Atos, que vous connaissez bien, dans le militaire, dans le nucléaire, dans le renseignement, allaient être partiellement rachetés par l'État. Est-ce que c'est une bonne solution que l'État intervienne pour sauver Atos, que vous avez dirigé pendant plus de 10 ans? Est-ce une forme de nationalisation?
Alors, Yael Gauz, effectivement, l'entreprise Atos, je la connais bien, puisque pendant 11 ans, je me suis efforcé avec le conseil d'administration d'en faire une entreprise leader dans les domaines les plus critiques pour le traitement des données. J'ai quitté cette entreprise il y a plus de 5 ans. Elle était quoi il y a plus de 5 ans? Après 11 ans précisément de travail patient collectif avec l'ensemble des parties prenantes, elle était devenue numéro 1 en matière de services de cybersécurité en Europe et numéro 3 mondial. Elle était devenue numéro 1 en matière de supercalculateurs, notamment pour la modélisation de l'arme nucléaire française, et numéro 3 mondial. Elle était devenue numéro 1 en matière de serveurs.
Vous parlez au passé, mais aujourd'hui, c'est une entreprise qui a perdu 3,4 milliards d'euros et 80% de sa valeur boursière.
C'est effectivement l'entreprise que j'ai bâti avec le conseil d'administration, avec les salariés, et je vous dis simplement ce qu'elle était il y a 5 ans. Elle a été également numéro 1 en matière de traitement des données sécurisées, et tout ça a été fait, et je le dis, parce que je lis quelques erreurs par moment, c'est pas moi qui le dis, du reste c'est 1 an après, il suffit de regarder dans le rapport annuel de l'entreprise, c'est les dirigeants d'après qui l'ont dit, c'est une entreprise qui avait 0 dette nette. Tout ceci a été fait sans endettement net.
La question d'aujourd'hui, c'est est-ce que l'État qui vole au secours, c'est bien ou c'est pas bien ?
Pourquoi est-ce que j'avais voulu faire ça ? Parce que j'estimais et que ces actifs étaient très importants pour avoir de la souveraineté dans le traitement de l'information en Europe. Alors il se trouve que pendant 2 ans ensuite, l'entreprise, elle a continué à être l'une de celles qui performait le mieux au niveau européen. Elle a traversé la crise du Covid en continuant à progresser. Après, il y a eu des divergences stratégiques, des orientations totalement orthogonales.
Pardon,
le
question ce matin,
est-ce que c'est une bonne...
Est-ce que c'est une bonne...
Et je n'ai pas...
L'intervention de l'État est-elle nécessaire ?
et il y a eu 5 directeurs généraux qui se sont suivis. Donc, ce qui reste aujourd'hui,
et l'État arrive aujourd'hui.
Ce qui reste aujourd'hui, c'est une entreprise effectivement dont les actifs sont très stratégiques. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire que ceux que je viens de faire. C'est la reconnaissance que cette entreprise dispose d'actifs stratégiques pour l'Europe. C'est très important et des femmes et des hommes qui les font.
C'est important que l'État les protège.
C'est très important
actifs.
Que, comme moi, lorsque j'ai bâti cette entreprise, je ne voulais pas que certains de ces actifs partent dans des mains qui n'étaient pas des mains européennes. C'est pour ça aussi que je les avais acquis. Donc je crois que c'est très important que ça reste en Europe.
On va passer au Standard d'Inter où nous attend Marc. Marc du Pas-de-Calais.
Oui, bonjour.
Bonjour Marc, bienvenue.
Bonjour messieurs, merci de m'avoir pris ma question. Alors j'ai un constat, ça fait le mois prochain, ça fera 500 jours que M. Poutine a lancé son offensive sur l'Ukraine. Alors, question multiple, ne pensez-vous pas que l'Europe semble une sorte de forteresse assiégée ? Je m'explique. Une armée russe qui ne cesse de grignoter les positions ukrainiennes, une Chine en embuscade via Huawei, TikTok et peut-être la route de la soie, une défense commune à la ramasse, un soutien US qui a trop tardé, doublé d'une victoire de Trump qui nous lâcherait, des pays d'Afrique qui, un à un, se détournent de nous, et enfin, un rassemblement national en tête de sondage aux élections du 9 juin avec des idées que l'on sait. Bref, comment à ce jour être optimiste avec un marché intérieur qui risque de s'effondrer et nos belles valeurs démocratiques à l'avenant?
Merci bon. Marc, je rigole parce que effectivement, comment aujourd'hui être optimiste vu le tableau que vous venez de faire? Je laisse la parole à Thierry Breton sur l'optimisme.
Bien, écoutez, d'abord c'est effectivement en partie, parce que le président de la République n'a pas repris tous les éléments que Marc vient de citer, mais c'est en partie cette analyse qui a fondé le discours de la Sorbonne de la semaine dernière du président de la République, Emmanuel Macron, parce qu'évidemment, le paysage tel qu'il est décrit, et géopolitique en particulier, en ce qui concerne la Russie, en ce qui concerne les États-Unis, en ce qui concerne la Chine, en ce qui concerne ce qu'on appelle d'une façon générale le Sud global, c'est effectivement ce que le président de la République a dit en qualifiant cet environnement géopolitique qui, évidemment, n'est pas favorable...
N'est pas favorable
à l'Europe. Alors, je nuancerai sur le fait de dire qu'une défense qui s'effondre, c'est l'inverse. Alors, je peux en porter témoignage, c'est vraiment l'inverse. La défense européenne est vraiment en mouvement. Nous avons aujourd'hui la capacité de tout faire en Europe. Ce qu'il faut maintenant, c'est le faire plus vite et ensemble, et je n'ai aucun doute qu'on va y arriver. Alors, est-ce que nous sommes une forteresse assiégée ? On est dans des logiques, aujourd'hui, Nicolas Demorand, de rapports de force globaux. Et pour mener ces rapports de force, ben c'est certain qu'on ne peut plus le faire en étant un pays isolé. Regardez ce qui se passe avec la Grande-Bretagne, c'est le contre-exemple absolu. Et c'est parce que nous sommes ensemble, parce qu'on pèse 450 millions de concitoyens, parce que nous sommes le premier marché intérieur au monde qui ne s'effondre pas, contrairement à ce qui vient d'être dit, que nous pouvons peser, que nous devons peser dans le monde d'aujourd'hui, de demain. C'est la seule issue que nous avons, mais on a cette chance d'avoir ce projet commun qui fait que oui, on saura faire des rapports de force, comme je les ai fait par exemple avec les grandes plateformes, pour leur imposer désormais nos lois et non pas l'inverse.
Pour peser, il faut être crédible économiquement. Retour en France, Thierry Breton, la France échappe à une dégradation de sa note par les agences de notation Moody's et Fitch. Quel commentaire est-ce que ça vous inspire? Alors déjà, sachant qu'aucune des deux ne pense qu'on reviendra sous les 3% de déficit public d'ici du PIB d'ici alors, à 2027.
Les notations sont évidemment des éléments importants lorsqu'on est un acteur public qui travaille dans le secteur de l'économie, bien entendu. J'ai cru comprendre du reste que ces deux agences avaient déjà dégradé la France lors de leur dernière notation. Donc, je pense que, je dirais, c'était déjà exprimé. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour la France, c'est la trajectoire. Pour la France et pour l'Europe du reste. Parce que, évidemment, nous sommes tous engagés dans une dynamique commune, notamment les partenaires de l'euro.
Alors, la trajectoire française.
Alors, la trajectoire française, elle indique, et elle a été acceptée, elle a été proposée, donc, notamment par la Commission, que la France devait revenir, donc, en 2027,
sous
la barre des 3%. Il n'y a aucune raison que cette trajectoire soit remise en cause, à charge maintenant, évidemment, pour la France, comme pour tous les États qui se sont engagés sur leur propre trajectoire, de le tenir. Et c'est ça.
Est-ce qu'on peut échapper à une procédure pour déficit excessif, puisque ça, c'est le rôle de la Commission?
La réponse, c'est oui. puisqu'encore une fois, désormais, cette procédure, elle s'inscrit dans ses trajectoires, et c'est la raison pour laquelle, à juste titre, le ministre de l'Économie et des Finances, mais le président de la République, disent de façon claire que ce qui est très important, c'est évidemment que la France tienne cette trajectoire, et c'est cette trajectoire qui a été présentée donc à la Commission, et qui doit être tenue désormais.
Avant, quelques questions politiques sur la campagne des élections européennes. Un autre mot sur l'économie. Il y a 10 jours, les Échos faisaient leur une. Croissance, l'Europe à la traîne du monde. Prévision de croissance pour la zone euro à 0,8%. C'est 2,7% pour les États-Unis. L'écart est considérable. Comment l'expliquez-vous, cet écart, Thierry Breton? Et sommes-nous en train de décrocher?
Alors, d'abord, il faut toujours regarder les choses en économie, donc de façon très précise. Lorsqu'on regarde, puisqu'on se mesure finalement à partir de... J'ai vu qu'il y a un certain nombre d'analystes qui indiquent par rapport à 2000, effectivement. Et je le dis, ce qui est important, c'est la croissance par habitant. Quand on regarde la croissance par habitant et à taux de change constant, parce que si on ne prend pas les taux de change constants, évidemment, on a cet écart. Mais ce qui est important, c'est la création de richesse créée par habitant. Elle est identique, donc, au niveau européen et au niveau américain depuis 20 ans. La parité de pouvoir d'achat est la même, c'est très important parce que c'est pas assez dit, entre les États-Unis et l'Europe depuis 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais pas la richesse par habitant.
Si, je parle encore une fois de la création. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une croissance. Il faut parler à taux de change constant. C'est pour ça que je parle à taux de change constant et donc en parité de pouvoir d'achat. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la démographie aux États-Unis a augmenté considérablement depuis 2000, plus 18%, et de façon assez faible en Europe, 4%. Ce qui explique en partie les éléments de croissance que l'on voit au niveau en valeur absolue, donc sur les États-Unis. Il n'en demeure pas moins qu'il faut faire plus, évidemment, en Europe. La compétitivité est un problème, un enjeu majeur, et que les propositions du rapport L'État, du reste, et Enrico L'État qui vient de les remettre, vont dans le sens qui me semble être le bon sens pour accroître notre compétitivité.
Allez, on en vient à la campagne des européennes. Il y a J-42.
Des sondeurs ont tenté de mesurer si les 1h49 du discours du président de la République à la Sorbonne avaient eu un effet dans l'opinion. Sans doute est-ce trop tôt, mais pour l'instant, pas du tout. Et même certains instituts voient la liste Glucksmann se rapprocher de celle conduite par Valérie Ayer. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la campagne de votre camp, Renaissance?
Alors d'abord, sur le discours du président de la République, je crois qu'il l'a précisé, et c'est la réalité. Ce discours, il avait vocation à s'exprimer auprès de l'ensemble des 27, parce qu'il va y avoir...
Aux diplomates plus qu'aux Français.
Parce qu'il va y avoir un conseil fin juin très important, un conseil européen, où précisément la stratégie pour les 5 ans qui viennent va être proposée et décidée à 27. Et le président de la République a souhaité présenter sa stratégie pour les 27. Et je peux vous dire que dans les capitales européennes, j'y passe évidemment ma vie, c'est mon travail, le discours a été bien compris. Il n'y a pas que le chancelier
Scholz. Oui, mais ce sont les Français qui votent le 9 juin.
Oui, mais je vous redis par rapport, puisque vous m'interrogez sur le discours, c'est un cap qui va être discuté. Il l'a partagé évidemment avec ses concitoyens, c'est normal. C'est ce discours et son fondement qui va être discuté auprès de ses pairs au mois de juin.
Est-ce que la campagne...
Alors maintenant, sur la campagne, bah, vous voyez, vous êtes des experts, et vous voyez donc, comme moi aujourd'hui, les chiffres. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que on n'est pas rentré encore dans le fond des propositions. On n'est pas rentré encore dans ce qu'il faut pour que l'Europe de demain, celle qui puisse exercer des rapports de force, cette Europe puissance, qui soit consciente de sa puissance ensemble, qui puisse l'exprimer dans les rapports de force qui ne vont pas manquer, avec une Amérique qui, si elle devient l'Amérique d'un nouveau président Donald Trump, on sait qu'il ne comprend que les rapports de force, mais que ça fonctionne lorsqu'on exerce ces rapports de force. C'est pareil avec
Thierry
la
Breton.
Chine, c'est pareil avec le reste.
Donc Giorgia voilà, Meloni, on n'est pas encore Giorgia rentré. Meloni en Italie, chef du gouvernement, va elle-même endosser le rôle de tête de liste aux élections européennes pour son camp et comme chef du gouvernement. Est-ce qu'on ne devrait pas en prendre de la graine en France aussi? Est-ce
oui,
que Gabriel Attal, Premier ministre, devrait se mouiller un peu plus, pour le dire clairement?
Elle le fait tardivement. Giorgia Meloni a l'ambition de faire peser davantage le groupe européen auquel elle appartient, qui s'appelle ECR. C'est sans doute la raison, je ne vais pas faire encore une fois de commentaires politiques qui ne m'appartiennent pas, mais on voit bien pourquoi elle le fait. Ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, je n'ai pas entendu une seule proposition de la part, par exemple, du Rassemblement national sur l'Europe de demain, sur comment il entend exercer, M. Bardella, les rapports de force nécessaires.
Et alors, comment expliquez-vous qu'il soit à 30%
je ne suis pas un expert politique. Je vois bien effectivement ce qu'il y a derrière, mais je vois aussi que on n'est pas encore rentré dans les propositions et que du reste, M. Bardella semble avoir du mal à y rentrer. Et moi, qui le côtoie quelque part. assez souvent au Parlement européen, ça ne me surprend pas.
Merci Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, d'avoir été au micro d'Inter ce matin. Il est 8h47.